on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Des éclats de voix, des chaises qui basculent, des portes qui claquent, quel autre sujet que la politique peut autant animer un déjeuner? Aujourd'hui, nous parlons des désaccords politiques en famille et au sein du couple. Car la politique peut unir, François Hollande et Ségolène Royal ont formé un couple célèbre. Aujourd'hui, Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti, eux aussi socialistes, ont pris le relais. Côté extrême droite, Marine Le Pen et Louis Alliot, même quête du pouvoir, même combat, mêmes idées. Mais peut-on partager le même lit quand on n'a pas le même vote? Place pour la politique dans l'intimité et comment éviter qu'un repas aux chandelles ne vire à la guerre de tranchées? Nos invités pour en parler, Anne Muxel, directrice de recherche au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez dirigé la rédaction du livre La vie privée des convictions aux presses de Sciences Po en 2014. Bonjour Yvonne Poncet-Bonissol.
Bonjour à toutes les deux.
Vous êtes psychologue et clinicienne au téléphone avec nous pendant toute la durée de l'émission. Et vous, les voisins, les voisines, qu'en pensez-vous? Partagez-vous les mêmes opinions politiques que votre conjoint ou votre conjointe, ou que vos parents, vos frères et sœurs? Et sinon, comment le vivez-vous? Quelle ambiance à la maison? Pourriez-vous vivre avec quelqu'un qui ne partage pas vos idées? On attend vos appels, les voisins, vos points de vue ou vos questions, si vous en avez pour nos invités, au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Et puis bien sûr, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et vous réagissez sur Facebook, les voisins. Gildas nous écrit de Boisqué en Côte d'Ivoire. Il est plutôt ouvert au débat, je le cite. Pour ma part, je ne vois aucun inconvénient à ce que mon épouse ne soit pas du même parti politique que moi. Je suis pour la liberté d'opinion dans le couple. Moussa est à Moïsala au Tchad. Il nous dit, toute personne a le droit de choisir le parti politique qui correspond à ses opinions. J'ai vu un couple dont la femme votait pour le parti au pouvoir et son mari votait lui pour l'opposition. Mais ils s'entendent très bien, c'est tout à fait possible. Et Djibril, qui vient de Kaï, au Mali, il a un avis plus tranché. Être d'accord ou pas d'accord, c'est ce qui détermine l'orientation d'une relation à ses débuts. Si madame ne suit pas monsieur, c'est difficile à gérer.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins, hein ?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Mais tout de suite, reportage. Pour nous mettre dans le bain avec une pièce de théâtre politiquement correcte, en plein dans notre sujet. Elle se joue en ce moment au Théâtre de la Pépinière à Paris. C'est l'histoire en fait d'un coup de foudre entre Mado et Alexandre. Pas de bol, la foudre a décidé de frapper au soir du premier tour des élections présidentielles françaises, même si tout ça évidemment est fictif. Notre reporter Alice Milo a assisté à une représentation en compagnie de Salomé Lelouch, auteur et metteur en scène de la pièce.
Toujours envie d'un café ? Il est 18h, j'ai rendez-vous à 19h à côté avec des amis pour suivre la soirée électorale.
Moi aussi ? J'ai rendez-vous à 19h avec des amis pour suivre la soirée électorale ?
Oui, forcément, oui.
Ah ben oui, forcément.
Je m'appelle Alexandre.
Mado.
Oui, alors je vous propose que nous ne parlions pas de politique.
Ah.
La France ne parle que de ça depuis des mois, on en a au moins pour encore 2 semaines. Ça vous amuserait pas de parler d'autre chose pendant 1 heure ?
Ah oui, oui, si, bien sûr, c'est pas grave. Non, je veux dire, on peut parler d'autre chose, évidemment.
Voilà le bien.
Merci.
Merci.
Voilà, il est 20h.
La candidate de l'extrême droite est nettement en tête, avec 37% des voix.
C'est l'histoire d'une jeune femme, Mado, qui tombe amoureuse sans le savoir d'un militant d'extrême droite le soir du premier tour des prochaines élections présidentielles. Ils ont tous les deux rendez-vous pour rejoindre des amis pour suivre la soirée électorale et ils vont complètement oublier d'aller rejoindre leurs amis pour la soirée électorale et passer toute la soirée et la nuit à discuter de tout sauf de politique. Donc elle ne va pas savoir qu'il est militant d'extrême droite, même si lui a bien compris qu'elle était plutôt une jeune femme de gauche.
Et donc il se réveille le lendemain, et là les résultats du premier tour sont tombés.
Les résultats du premier tour sont tombés, l'extrême droite est première au premier tour, et on ne sait pas si c'est la gauche ou la droite encore, ils sont dans un mouchoir de poche.
Comment vous avez eu l'idée de faire une pièce de théâtre sur ce sujet en particulier ?
Moi j'avais de plus en plus d'amis d'enfance, ou de gens que je croisais, que je sentais, alors soit ils le disaient, soit ils le disaient pas, mais en tout cas chez qui je chantais une vraie séduction pour cette extrême droite, un vrai durcissement de la France. Et j'ai eu envie, comme c'est du théâtre et que mon métier c'est de pousser les curseurs, d'aller au plus près de ce que ça pouvait être, c'est-à-dire une histoire d'amour entre eux.
Ils existent, ces couples que vous avez mis en scène,
Franchement, j'ai rencontré tous les cas de figure. Parce que quand j'ai commencé à dire que j'écrivais là-dessus, beaucoup de gens se sont ouverts à moi, en fait. Et ont dit « Ah, mais ça m'est arrivé. » Ou « Moi, j'ai eu une histoire avec une fille qui votait Front National. » J'ai eu toutes sortes d'histoires. J'en ai rencontré aussi où l'un bascule. Et l'un dit à l'autre « Écoute, je vais essayer le Front National. En fait, c'est là-bas que je me retrouve le mieux et tout. » Et puis, bah, vous restez mariés. Hein, vous. Il y en a plein qui n'ont pas quitté leur femme ou leur mari parce qu'ils ont, basculé au Front National.
C'était plus intéressant que de le raconter, par exemple, au sein d'une famille, le déchirement d'une famille, ou un déchirement d'un groupe d'amis d'enfance, ou pourquoi un couple ?
Parce que je pense qu'effectivement, au sein d'une famille, c'est un déchirement, alors que là, rien ne les oblige. Là, ils ne sont pas obligés de tomber amoureux, elle n'est pas obligée de rester, elle pourrait très bien dire « Ah bon, bah, au revoir », elle ne le fait pas. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tragédie grecque, c'est-à-dire que vous avancez comme ça vers l'échafaud et vous continuez à y aller alors que tout le monde vous a dit « Tu vas dans le mur ». Voilà, donc ça avait quelque chose de très théâtral. C'est vrai que dans une histoire d'amour, rien ne vous oblige d'être là.
Et pourtant, elle reste.
Elle essaie de comprendre. Elle se demande si le fait qu'elle ait été séduite par quelqu'un d'extrême droite, ça raconte un glissement d'elle ou de l'extrême droite. Donc elle va essayer de comprendre ça et elle va rester jusqu'à ce qu'elle le comprenne.
Tu t'as dit comme ça ? Ah, en fait, j'ai oublié de te dire, je suis au front.
Non. Non, il m'a monté un bobard avec un copain, je le sentais pas, je les ai suivis et... ils sont entrés au QG du front. Voilà.
Depuis quand t'es obligé de mentir sur tes orientations politiques pour te taper une meuf ?
Non, je lui ai pas menti. Je lui ai juste pas dit.
Je me suis tapé en facho !
Quoi, facho ? Qui ? Facho ? Quel facho ? De quoi on parle ?
De vous.
C'est quoi le problème avec le front ?
Ah, on n'a pas le temps, hein, ce serait trop long.
La fille est différente du père.
Oh bah oui, la pauvre petite fille qui s'est rendue compte il y a 2 ans qu'en fait son père était d'extrême droite. Oh non, ça n'a pas dû être facile pour elle, hein, de découvrir ça comme ça, matin, de tout en blanc, dans le journal.
Bah non, j'ai pas envie de rentrer dans un débat sur le front avec ta copine, j'ai envie de parler de nous avec toi, tu crois que c'est possible ?
Non, c'est pas possible, non. J'ai l'impression qu'on pourra jamais parler ensemble.
Mais on veut pas parler avec eux.
Si. Si moi je veux. Moi, je veux comprendre comment on en est arrivé là, comment moi, j'en suis arrivée là, à tomber amoureuse d'un mec d'extrême droite.
Amoureuse ?
Oui. Non. Enfin, rien dans ce que tu dis depuis qu'on s'est rencontrés ne me donne envie de te quitter, toi. Pourquoi tes idées me donnent envie de quitter la France ?
Mais cette conversation est surréaliste.
Dans un premier temps, ça relève du politiquement correct. D'ailleurs, elle le dit, mais pourquoi je peux pas ? Il n'y a que ton regard qui me gêne, il n'a rien qui l'a... Enfin, voilà. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment le regard de la société. C'est-à-dire que cet homme lui plaît, tout va bien, il lui dit « je vote au front » et d'un seul coup, elle fait « ah non, c'est pas possible ». Donc, vraiment quelque chose de l'ordre d'une idée placardée qui correspond à rien. Et je pense que c'est que quand on est amoureux qu'on fait l'effort de comprendre.
Ça peut marcher, un couple politiquement divergent ?
Les 3/4 du temps, quand même, c'est des histoires qui ont été fortes, mais qui n'ont pas duré. Après, c'est pas vraiment un couple, c'est une histoire, c'est une rencontre. Ils vont pas, d'ailleurs, se mettre en couple, parce que sur le long terme, c'est très compliqué de rester avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord sur l'essentiel.
Dans des circonstances exceptionnelles, évidemment, que moi aussi, je pourrais sacrifier 20 personnes pour en sauver 200, ou choisir de sauver un ami plutôt qu'un inconnu. Mais ça ne peut pas être ma vision du monde. Ce qui fait que je ne peux pas être avec toi, c'est ce manque de générosité intrinsèque. Il y a un côté gagne-petit dans votre vision du monde qui est terrible. Je ne veux pas que le père de mes enfants compte sur le sacrifice des enfants des autres pour que les siens aient plus de chance. Je suis désolée, Alexandre.
Extrait bien choisi de la pièce Politiquement Correcte qui se tient jusqu'au 31 décembre au Théâtre de la Pépinière à Paris. Vous avez vu cette pièce, je crois, Anne-Muxelle ?
Oui, tout à fait. J'ai vu cette pièce, oui.
Alors, un militant du Front National et une bobo de gauche qui se lance dans une aventure amoureuse, on imagine que ça n'arrive pas si souvent que ça ?
Non, c'est vrai, ça n'arrive pas si souvent, mais en même temps, ce qui est très joli et bien montré dans cette pièce, c'est que finalement, l'amour obéit à d'autres lois. Et que finalement, quand on rencontre quelqu'un, c'est finalement pas la politique qui vient en premier. Hein. Ça a été observé par certains sociologues, spécialistes des rencontres amoureuses et de l'amour. Ce n'est pas, dès qu'on rencontre quelqu'un, qu'on est attiré par quelqu'un, on commence pas à lui dire « bon bah, pour qui votez-vous ? Êtes-vous de droite ? Êtes-vous de gauche ?» C'est pas comme ça que ça marche.
C'est plus tard que se révèlent peut-être les tensions. Comment vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre, Yvonne Poncet-Bonisol ?
Eh bien, on voit combien la politique appartient vraiment à l'identité intime de chacun. Donc il est évident que ça s'infiltre dans le couple parce que ça engage des valeurs, des idées, et puis tout ce qu'on, notre vision du monde, notre lecture du monde. Mais bien souvent, comme dit Madame Muxelle, les couples se rencontrent sur des valeurs relativement identiques. Donc on est plutôt dans le style de l'homogamie en politique, c'est-à-dire on recherche un conjoint qui participe les mêmes valeurs que soi. Donc tout est une question de peut-on accepter la différence ou alors peut-on refusons-nous la différence et recherchons-nous toujours un être qui vous ressemble. C'est tout l'enjeu, finalement, du couple.
Oui, les couples, en fait, qui sont en désaccord politique sont rares. Je crois que c'est 14% des Français qui auraient une vraie divergence politique dans le couple. L'un qui vote à gauche, l'autre qui vote à droite. Comment expliquer que ce chiffre soit si bas? C'est peu.
C'est un peu plus, quand même.
C'est un peu plus
Voilà. Enfin, en tout cas, dans les études que j'ai pu mener, c'est à peu près un quart des couples qui ne votent pas de la même façon et qui ne votent pas, surtout, dans le même bord politique. Donc c'est quand même un quart de Français, de couples, qui sont obligés de s'arranger dans le quotidien, dans l'intimité, effectivement, de ce choix politique divergent. Alors, il y a plusieurs stratégies. Soit ils vont discuter, confronter leur point de vue au quotidien, de façon d'ailleurs plutôt optimiste et plutôt constructive, en s'intéressant à la différence et en trouvant que d'ailleurs cela pimente leur relation. Soit ça va déboucher sur des querelles, des disputes à répétition quasi ritualisées, c'est-à-dire qu'à partir du même mot, de la même observation, eh bien, la dispute politique repart. Donc voilà, et donc on s'arrange, ils vont devoir s'arranger de ces disputes à répétition. Soit il peut y avoir aussi des arrangements beaucoup plus drastiques, mais aussi probablement problématiques à la base, c'est-à-dire que l'on décide d'éviter complètement la discussion, d'éviter même le sujet de la politique. Donc on fait de la politique un tabou, par exemple, dans le couple. On n'en parle plus jamais parce qu'on sait que si on en parle, alors là, il y a un risque pour que ça atteigne la relation dans son cœur même et que ça entame finalement le lien d'amour, le lien d'affection.
Pour éviter les disputes, 7 milliards de voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On vous attend.
33 1 84 22 71 71.
Soyez les bienvenus.
Et tout de suite, nous accueillons un voisin, Babacar. Bonjour Babacar.
Bonjour Charlie, bonjour à tous les voisins et voisines.
Vous êtes à Kaolack, au Sénégal. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce sujet politique et couple?
Voilà, donc moi je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement il y a quelques années de cela. Donc j'étais avec une fille dans une école de formation que nous partagions. Donc on était amis et en général on avait des discussions vives en matière politique.
Vous n'étiez pas d'accord?
Non du tout, on avait toujours des idées divergentes. Mais malgré cela, bon, on a vécu une relation qui a été vraiment pérenne jusqu'à aujourd'hui.
Ça parce vous a apporté ces débats politiques avec elle?
Oui, parce que malgré le fait d'être malmené et affaibli des fois dans ses argumentaires, bon, nous avons su développer un esprit de dépassement entre nous. Et donc, juste après nos débats, bon, on se retrouver encore plus unis et encore plus intéressés conjointement.
Ça a apporté en fait du piquant à votre relation amoureuse?
Voilà, parce que quand tu as l'habitude de vivre la routine avec des filles, imposer à chaque fois ses idées politiques aux autres, quand tu rencontres vraiment une fille qui a la tête bien faite, qui a de solides arguments, en général on est captivé par elle. Et donc cette captivation a su continuer à donner du butin et à rendre pérenne la relation.
Même si vous n'êtes plus avec elle aujourd'hui, je crois.
Oui, on est séparés, mais ce n'est pas par nos idées, mais c'est par un choix de vie.
Elle pour d'autres raisons. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre.
Voilà. Bon. Voilà, elle s'est mariée et moi, comme je n'étais pas prêt à prendre la corde au cou, bon, on est séparés. Mais on continue à entretenir une relation amicale, vraiment sincère, et on ne manque pas des fois de se lancer des pics dans nos envolées politiques. Quoi.
Vous poursuivez les débats avec elle. Merci. Merci beaucoup, Babacar, pour votre témoignage. Vous voulez réagir à Nuxel ?
Oui, alors là, on est vraiment dans le cas de figure où le désaccord est vécu de façon positive. Donc, dans mes travaux, dans mon livre, c'est ce que j'avais appelé l'intimité démocratique. C'est-à-dire que vraiment, là, le désaccord permet de réaffirmer le respect de la pluralité, le respect de la différence et même l'intérêt pour la différence de l'autre. Donc là, il y a quelque chose qui se joue de l'altérité démocratique qui est vraiment très bien montré dans ce couple.
Hein. Yvonne Poncet-Bonisol, on imagine aussi que la clé, c'est qu'aucun des deux membres du couple ne soit dogmatique, c'est-à-dire que chacun soit capable de reconnaître à l'autre quand il a raison.
Alors savoir effectivement reconnaître la différence et les valeurs de l'autre, sans toutefois renier les siennes, parce que c'est là où effectivement le conflit peut s'enquister. C'est-à-dire si on doit finalement être dans une posture de soumission par rapport aux convictions politiques d'un des conjoints.
Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que la politique engage quand même des valeurs, une approche du monde qui peut être différente. On ne parle pas seulement de bulletins de vote. Comment les couples gèrent-ils ça?
Oui, parce que justement... Pardon.
Yvonne Poncet-Bonisol, allez-y.
Non, mais je crois que la politique condense aussi tous les non-dits, toute notre vision du monde, toute notre intimité, tout l'enracinement affectif et tous les discours de notre petite enfance qu'on a entendus. Et c'est vrai que bien souvent, à table, on ne parle pas de politique parce qu'on sait que c'est un sujet hypersensible qui a à voir avec finalement qui on est, notre identité la plus profonde. Et je crois que la première, c'est vrai que la position la plus sage dans un couple, c'est peut-être que la solution soit tabou, la politique soit tabou, mais c'est en tout cas certainement pas la plus enrichissante.
Dans un livre que vous avez publié sur le sujet, Anne Muxel, vous relatez le témoignage d'une réalisatrice de 60 ans qui a eu une relation avec un homme de droite et elle vous dit « Il était pour moi du côté de l'ennemi, du côté du pouvoir et donc de l'oppresseur, du côté de toutes les valeurs que je réfute. Cela a rendu les choses à peu près impossibles. » On voit là aussi ce décalage en fait de vision du monde.
Oui, tout à fait. Alors, ces avis beaucoup plus tranchés, cette impossibilité, elle apparaît beaucoup plus marquée d'ailleurs parmi les personnes qui sont plutôt d'une culture de gauche. Il y a finalement, et ça, ça m'a assez intéressée dans mon enquête et dans cette analyse que j'ai pu mener, c'est que finalement, à gauche, parce qu'on est engagé peut-être dans l'idée d'un projet de transformation sociale, qu'il y a effectivement ce sentiment peut-être plus fort d'une appartenance à un nous, à un collectif. Et du coup, la question de la différence est probablement plus difficile à accepter, à admettre que parmi des gens qui sont issus d'une culture politique de la droite où la question de l'individu, de la liberté individuelle sont peut-être plus affirmées. Donc, c'est vrai que là, dans le cas présent de cet exemple, cette réalisatrice, étant elle-même de gauche, pour elle, c'était vraiment quelque chose d'assez rédhibitoire. Il était impossible de poursuivre au-delà d'une aventure, de construire quelque chose sur la base de ce désaccord.
Et est-ce qu'on peut parfois entretenir l'espoir secret, peut-être, de faire basculer l'autre de son côté, de le retourner à sa cause ?
Dans conviction, il y a convaincre. Évidemment, on a envie de convaincre l'autre, en tout cas pour ceux qui sont les plus politisés. Hein. Il est vrai qu'il faut bien dire, et on l'a entendu dans le témoignage, on parle de politique parce que d'abord on est intéressé par la politique. Il y a des tas de personnes qui peuvent cohabiter en fait très bien dans le désaccord politique dès l'instant où la politique n'occupe pas une place importante dans leur vie.
Anne Muxel, Yvonne Poncet-Bonisol, vous restez avec nous, on vous retrouve juste après le flash, les voisins, les voisines. À tout de suite dans 3 minutes.
Milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez pour discuter de l'amour et la famille à l'épreuve de la politique. Ils s'aiment mais ne partagent pas les mêmes idées, parfois les mêmes valeurs, ou quand les élections s'invitent dans la chambre à coucher et l'ambiance s'annonce plus qu'électrique au repas de famille de la fin d'année avec la peur de la phrase de trop, celle qui peut tout faire déraper. Comment gérer ces débats houleux, source de tension au quotidien dans le couple et en famille? Comment ne pas être déçu aussi quand nos proches adoptent des positions qui nous déplaisent? On en parle avec Anne Muxel, sociologue, directrice de recherche au Centre de recherche politique de Sciences Po, et Yvonne Poncet-Bonissol, psychologue clinicienne.
On peut s'arrêter 2 secondes sur l'absurdité qu'il y a à quitter quelqu'un pour des raisons politiques? Alors comment je fais, moi, si ce que je veux de mieux pour moi, c'est lui? Pas son programme politique, lui! Son programme politique, c'est lui! Parce que je pense que la politique, c'est la projection d'un sentiment intime vers l'ensemble de la société. Mais concrètement, la politique, c'est vouloir pour tous les hommes ce que l'on veut de mieux pour soi. Ce que tu considères comme une petite divergence entre nous, pour moi, c'est essentiel. C'est ma limite.
Extrait de la pièce Politiquement Correct, une pièce qui se joue actuellement dans un théâtre parisien. C'est ma limite, nous dit la jeune femme de gauche qui rompt avec son petit ami d'extrême droite. Les mots sont durs, le verdict sans appel. Quelles sont vos limites à vous, les voisins, les voisines? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et vous nous écrivez aussi sur Facebook. Je vous lis quelques messages. Kader est à Ouagadougou au Burkina Faso. Je suis dans un parti politique différent que celui de mes frères. Ça pose toujours problème pendant les campagnes électorales. De toute façon, les désaccords politiques au sein des couples et des familles sont fréquents et les positions difficilement conciliables. On a aussi Mustapha qui nous écrit de Bamako et qui nous dit « En famille, on discute de politique. J'aime le débat, même si on peut s'énerver. Cela peut être frustrant, mais je suis préparée moralement. » Et nous accueillons un auditeur en ligne tout de suite, Antoine à Paris. Bonjour Antoine.
Bonjour Charlie.
Dans votre famille, à vous, je crois qu'on ne partage pas, mais alors pas du tout, les mêmes opinions politiques.
Ah non, c'est même les extrêmes, tous les extrêmes rassemblés. Alors mon père vote plutôt Front National.
D'accord.
Ma mère est relativement libérale et européiste, donc elle vote UDI.
Donc
et,
pas un parti centriste.
Moi, je m'accorde au Parti communiste et je fais campagne pour Jean-Luc Mélenchon.
Oui, donc on est vraiment, on a toutes les parties, tous les partis du spectre politique. Comment ça se passe alors à la maison, les discussions politiques?
C'est relativement compliqué. On a eu toute une première période où il a fallu que mes parents acceptent que j'avais mes opinions à moi, que c'était pas simplement de la réaction à leur socialisation, à leur éducation. Et donc arriver à faire accepter mes idées.
Mmh.
Et puis maintenant, c'est relativement houleux. C'est du débat en permanence, du débat relativement vif, passionné. Il faut toujours arriver à savoir doser dans l'expression, à ne pas franchir la ligne rouge, à ne pas blesser.
Mmh. Et comment vos parents voient votre engagement militant au sein du Parti communiste?
Ça a pris un certain nombre d'années avant qu'ils le considèrent, qu'ils le respectent. Maintenant, ils me disent qu'ils sont en désaccord, mais considère que c'est quelque chose de bien que je m'engage pour changer la société.
Donc ils l'ont accepté. Et comment vous appréhendez là les fêtes qui approchent et probablement des réunions familiales?
Oh bah, on va avoir beaucoup de débats à table, j'imagine. La question c'est d'arriver à avoir le débat politique en début de soirée de manière relativement apaisée et de pas y passer 2 heures dessus non plus quoi.
Il n'y a plus de cris alors dans la famille? Pas de porte qui claque, ça c'est fini?
Disons que les portes ne claquent pas, par contre le ton montre régulièrement, oui, parce que quand on est en désaccord, surtout le désaccord sur les valeurs qui pèsent, c'est-à-dire le fait d'avoir, par exemple avec mon père, la question de savoir est-ce qu'un migrant c'est une personne en tant que telle qu'on doit accueillir en France, à qui on doit donner les mêmes droits que les Français, on tombe tout de suite sur des questions qui attisent les tensions, on va dire. Pareil sur des questions liées à la laïcité, sur des questions liées au SDF, où tout de suite on est sur des questions qui sont des valeurs humaines qui prennent au trip. Et à partir de là, ça devient compliqué d'avoir un débat apaisé. Après, on essaie tous de se retenir, d'avoir cette manière conviviale et pacifiée, mais c'est pas évident.
Et les positions de votre père, notamment, vous attristent, vous mettent en colère. Comment vous le vivez, en fait, ces différences-là?
Moi, je différencie quand même la personne de ses opinions. Ses opinions, je les trouve scandaleuses. La personne en elle-même, c'est mon père, c'est de la famille, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'affection.
Vous arrivez à faire la part des choses. Merci. Merci Antoine pour votre témoignage. Anne Muxel, comment vous réagissez à l'écoute de ce témoignage qui montre quand même qu'on a des familles avec des idées très très différentes.
Oui, absolument. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans une famille, on dit souvent on ne choisit pas sa famille. C'est vrai qu'on est engagé dans des relations contraintes, hein, qui sont les relations familiales. Et donc, on doit malgré tout conserver avec son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, des liens affectifs, des liens d'amour, des liens d'affection, au-delà des choix divergents en matière de politique, en matière de valeurs, mais ça peut être aussi en matière d'évolution quant à son travail, quant aux univers socio-professionnels dans lesquels on va évoluer. Donc en famille, malgré tout, le conflit peut être là, la divergence peut être là, mais on l'apprivoise parce que l'idée de maintenir quand même les liens dans une famille, c'est quelque chose d'important. Dans un couple, malgré tout, c'est différent. Un couple, il s'est construit sur des logiques affinitaires. On s'est choisi, ou en tout cas, on a cru se choisir. Et donc, du coup, il est plus difficile. La demande, en fait, d'homogamie, de partage des mêmes choix, des mêmes idées, des mêmes valeurs politiques, est peut-être plus importante que dans le cadre d'une famille. Alors là, avec le témoignage que l'on vient d'avoir, on a évidemment, c'était un témoignage extraordinaire. C'est comme dans la pièce de Chloé Lelouch, c'est-à-dire qu'on a des opinions vraiment très opposées et aux extrêmes. Et on sait que d'ailleurs les extrêmes conflictualisent beaucoup, extrémisent, je dirais, beaucoup les discussions, les conversations. Mais on a bien entendu dans ce témoignage qu'il y a un fil rouge à pas franchir, que l'affection reste là et que donc ce travail de dissociation entre ce que quelqu'un peut penser et ce que quelqu'un et représente, notamment un père, une mère pour un individu, c'est quelque chose d'autre qui appartient à un autre registre. Donc on voit bien qu'il y a un travail à faire très important.
Yvonne Poncet-Bonisol, c'est dans le cercle intime qu'on parle le plus de politique, en couple d'abord et puis dans la famille. Comment ça s'explique? Pourquoi est-ce qu'on en parle moins entre amis ou entre collègues par exemple?
C'est comme Anne Muxel a bien précisé, c'est qu'on touche à l'intime. Je veux dire que la politique, c'est tout à fait l'expression d'une hiérarchisation des valeurs, de ce qu'on pense, de ce qu'on est face au monde, de notre identité vraiment, de notre position face à l'altruisme, face à l'autre, de notre vision du monde. Donc c'est quelque chose qui participe de l'intime. Mais dans les couples, ou comme dans les familles, l'important, c'est de garder cette notion de nous. C'est-à-dire, dans le témoignage que nous avons vu, il a bien été souligné que ce qui était important malgré les différences, c'est la hiérarchisation des valeurs, le respect de l'autre, le respect de la différence, et de garder malgré tout cette notion de notre famille. Nous pensons que, et donc dans un couple, on doit aussi garder cette notion de nous, parce que ce nous fait appel à la confiance du lien, au respect, à la complicité, et ça permet de dialoguer sur un autre mode, qui est le mode de la politique, sur un autre sujet, pardon.
Et quel thème fâche le plus en général en famille? On a parlé là d'immigration par exemple, Anne Muxel, quels sont les thèmes qui font débat vraiment?
Alors, oui, la question de l'immigration, oui, qui renvoie à des valeurs. Ça a été très bien dit par le témoignage, au travers du témoignage d'Antoine. Le conflit israélo-palestinien, c'est aussi un sujet qui conflictualise beaucoup. Le Front National, l'extrême droite, ce sont aussi des sujets de fâcherie assez répandus. Dès l'instant où il y a des thèmes politiques ou des sujets de société, mais qui engagent des valeurs.
Et donc qui tiennent à cœur, en fait.
Qui tiennent à cœur, et bien du coup, il y a un risque de conflit très, très, très important, plus fort.
Et dans la famille, quelle est la part d'enfants qui ne votent pas dans la continuité idéologique de leurs parents? On a une idée de ce chiffre-là?
Alors, il y a une forte continuité idéologique. Il ne faut pas oublier que les deux tiers des Français aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité des choix idéologiques de gauche, de droite ou ni de gauche ni de droite de leurs parents. Alors ce n'est pas parce qu'on est de gauche ou de droite comme ses parents que l'on va forcément avoir le même vote. Il ne faut pas oublier qu'il y a, voilà, il y a une idéologie, une orientation idéologique à laquelle on peut se référer et au travers desquelles d'ailleurs, au travers de laquelle se construisent les premières identifications, les premiers repérages politiques, et cela très tôt dans l'enfance. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'on vote de la même façon à l'intérieur du camp de la gauche ou du camp de la droite. Donc on a une forte continuité en matière idéologique, mais on n'a pas une aussi forte continuité en matière de vote. Le vote est un comportement qui connaît beaucoup plus de mobilité, de volatilité à l'intérieur du camp de la gauche et du camp de la droite. Et il n'y a qu'à observer l'offre politique ou l'offre électorale à l'intérieur du camp de la gauche ou du camp de la droite pour bien voir qu'il y a plutôt, en tout cas en France, pléthore de candidats.
Et quelles sont les relations, Yvonne Poncet-Bonisol, que la politique, les divergences politiques mettent le plus en péril au sein des familles? Est-ce que ce sont les relations parents-enfants, les relations entre frères et sœurs? Qu'est-ce qui est le plus mis en danger par la politique?
Ah ben, je crois que c'est surtout le couple, comme disait Anne Mustel, c'est le couple qui est beaucoup plus fragilisé quand on ne partage pas les mêmes valeurs, qui sont vraiment des valeurs qui tiennent profondément à l'individu. Et en revanche, dans la fratrie, il est vrai que tout dépend des postures qu'on a vis-à-vis des parents, si on accepte cette transmission idéologique, si on y adhère, ou encore si finalement on est dans une position de révolte et d'opposition. Donc il y a des anciens conflits comme ça, infantiles, qui peuvent remonter et prendre le visage du conflit politique pour s'exprimer.
Les disputes les plus passionnelles ont lieu au sein des fratries, Anne Muxel.
Oui, c'est vrai que la fratrie est un espace de relations où on sait bien la rivalité, la jalousie, des liens qui remontent à la toute petite enfance font quelquefois l'objet de règlements, de conflits, d'arbitrages qui se répercutent dans les relations que l'on aura dans la vie adulte. Et la politique et la divergence politique peut à ce moment-là cristalliser justement ce passif qui remonte à l'enfance et déboucher alors là non seulement sur des disputes mais du coup aussi sur de réelles fractures, c'est-à-dire on a vraiment des frères et sœurs, de réelles ruptures qui ne se voient plus ou qui se voient vraiment
des ruptures familiales à cause de la politique, ça
oui,
arrive.
Oui, plus dans la fratrie qu'entre parents et enfants.
Les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 33 1 84 22 71 71, et tout de suite Same Old Thing de Jared Sanders. Yo, I'm the new Mike Jack, fire from off the top of the dome. Hey, young in these days, talking popping the chrome, plotting the pop a dome for a popular phone. Damn, probably ain't got a pop at home. The killers running up in your crib. Here's Johnny Unitas. What I'm selling, they never buy it. And if I tax a little for the buried treasure, without the booty inside, they probably pirate. What? Let me lighten up. That's a little too gone for your lighter bucks. Fifth too strong for you to light it up. You thinking right, I ain't the writer, you should try your luck with. Get it? Twerk a book. Take a good long gaze at how your circle look. I'm trying to break these chains, you all invited. What else? Fix the word untied, you get united. Whoa, same old thing. Everybody talking about the same old thing. Same old clips in the same old range. Same old whips in the same old chain. What else? The same old thing. Everybody talking about the same old thing. Same old tricks in the same old games. And it's a doggone shame. People give me a pound or a crown. I got a green thumb and I astound with the nouns. Underground with the sound. Water for life, a little sunlight. I put it down like a crew neck. I go over heads when I make a round. Sick of all of these rap niggas that lack interest. Shipping a package, yeah nigga. Back tripping, back spitting and back flipping over whack writtens. Attack quicker than track sprinters. Where my applause, huh? I'm a syllable killer, you niggas are feminine niners. I'm sicker than venom, I'm in no material killing them. Enemy in a venison, even an innocent. I plotted shit before I had a pot to piss. This era, don't accomplish shit, forging documents. What else? What you know about a sleepless night? Hopping a plane, hoping the flame in your brain secure your life, it never might. Still tell them, niggas never get the flowers where they can still smell them. Y'all want the same old thing, goddamn. Et nous sommes tout de suite en ligne avec un voisin, Karifala, à Conakry. Bonjour Karifala.
Bonjour voisins et voisines, comment ça va?
Très bien, alors vous avez des divergences au sein de votre famille, des divergences politiques. Racontez-nous.
Oui, bon, pour ce qui me concerne, dire que la politique, des fois, avec l'amour, des problèmes, selon chez moi, c'est le contraire. Et la politique et l'amour n'ont rien à voir de l'un et de l'autre. Parce que si réellement il y a l'entente dans la famille, vraiment il n'y a pas de problème. Mmh. Si je prends par exemple mon exemple, moi je suis d'un bord politique et ma femme est d'une autre. Et cela n'a rien à voir avec notre relation.
Et vous en parlez, tous les deux?
Oui, nous en parlons tout le temps. Et quand on s'asseye des fois, on s'emmaille, on se taquine des fois. Et même pendant les élections passées, quand le professeur Alpha Condé a remporté la victoire, mais je me moquais de lui, j'ai dit, bon, comme aujourd'hui, votre parti n'a pas gagné, vous pouvez aller chercher votre manger ailleurs. C'est pas moi aujourd'hui qui va vous donner la réponse. Et on s'est émaillé, on a même fêté ce jour-là pour le réconforter, lui dire que vraiment la politique n'a rien à voir avec l'amour. Mais ce que j'ai à vous dire, tout dépend de l'analphabétisme. Si vous voyez en Afrique, des fois, il y a des problèmes entre les deux conjoints. Souvent, c'est un problème purement d'analphabétisme qui règne souvent et qui provoque ces problèmes pareils. Sinon, si vous connaissez réellement l'un de l'autre de façon profonde, je crois que ça ne pose pas de problème.
Mais vous en connaissez-vous beaucoup des couples qui ne votent pas pareil aux élections autour de vous?
Vous dites?
Vous connaissez beaucoup de couples qui ne votent pas pareil aux élections?
Non, bon, je connais certaines, dans certaines familles, par exemple.
Ouais, dans les familles.
Quand les résultats sont tombés, bon, et des fois, il n'y a pas d'entente entre le couple, le mari et la femme à cause de leur bord politique différent. Mais tel n'est pas le cas chez moi. Et si je vous donne un autre exemple, ma petite fille, par exemple, si je dis ma fille, du moins, elle n'a pas le même bord politique que moi. Chaque fois, dès que leur leader sort à la télé, il me montre, papa, ça c'est mon leader, ça, mais je l'encourage. Je dis, c'est bon, pourquoi vous l'aimez? Il dit, parce qu'il est beau, il est ceci, cela, parce que c'est un enfant.
Mais vous n'êtes pas déçu que votre fille ne vote pas comme vous? Ça ne vous déçoit pas?
Vous dites?
Vous n'êtes pas déçu que votre fille ne vote pas comme vous?
Oui, ça ne me déçoit pas. Bon, pour que c'est un enfant, elle décide, comment elle a choisi son leader, selon la beauté, elle ne connaît pas le problème de programme, de société, ni rien. Et quand nous, les adultes, on se rend selon les... Le programme de société pour le leader qui peut faire vraiment l'affaire du pays.
Vous pensez qu'il faut encore qu'elle mûrisse et qu'elle réfléchisse mieux à ses opinions politiques. Merci beaucoup, Karif Allah. Merci pour votre témoignage. Anne Muxel, qu'est-ce qui se passe quand effectivement un parent se rend compte que son enfant ne vote pas comme lui? Est-ce qu'il y a une déception qui s'installe?
Alors,
un échec?
Oui, la plupart du temps, c'est quelque chose d'assez difficile à accepter, même si finalement c'est très vite refoulé, très vite écarté, parce qu'effectivement, voilà, le parent en question est confronté à quelque chose qui est de l'ordre de l'échec, enfin, ou d'un sentiment d'échec dans la transmission. Mais ce que j'ai observé dans mes travaux, dans mes enquêtes, c'est que finalement, très vite, les parents, alors là, pour le coup, évitent les sujets qui peuvent fâcher. À la limite, les enfants montent davantage au conflit que les parents ne vont au conflit avec leurs enfants. Ils ont plutôt tendance à éluder ou à faire de ce sujet un tabou, tant ils ont peur que ça mette en péril la relation affective qui les lie à leurs enfants.
Et dans les familles qui sont très politisées, comment sont perçus les abstentionnistes, ceux qui ne votent pas, qui ne s'engagent pas?
Oui, ça peut faire sujet de conflits là aussi, parce qu'effectivement il y a la divergence d'opinion, mais il y a aussi des écarts de comportement dans l'expression de son rôle de citoyen, du civisme, de la citoyenneté. Ça peut faire aussi objet de débats. Bon, je dirais que quand même, malgré tout, l'abstention est aujourd'hui un comportement électoral qui s'est assez largement diffusé dans la société, et qu'aujourd'hui, ce qui caractérise les électeurs, c'est plutôt le fait de voter et de ne pas voter de façon alternée. Voilà, seule l'élection présidentielle continue malgré tout de susciter une participation importante, mais toutes les élections intermédiaires, on le sait, suscitent des records d'abstention. Donc je dirais qu'elle s'est diffusée, cette abstention.
Elle est moins mal vue peut-être.
Voilà, elle est moins mal vue, elle est moins associée à un comportement normatif qu'est le vote que dans le passé.
Yvonne Poncet-Bonisol, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors je pense que, effectivement, là, quand un des enfants ne partage pas les mêmes convictions politiques que les parents, c'est vrai qu'il y a une forme de blessure narcissique car la transmission n'a pas fonctionné. Néanmoins, tout dépend de l'âge de l'enfant. Parce que c'est vrai qu'un jeune adulte peut être dans une position de révolte et voter plutôt à gauche, affirmer des opinions très humanistes, très idéologiques, très idéalistes. Et donc là, bien souvent, les parents laissent, ils acceptent volontiers en pensant que c'est un passage obligé. Néanmoins, Anne Mixtel a totalement, parfaitement illustré que toutes les distensions et toutes les différences peuvent aussi être source de renforcement dans la famille ou dans le couple. Je crois qu'il y a un autre élément qui n'a peut-être pas été évoqué, c'est quand un des conjoints ou un des parents est militant. Alors ça donne un autre aspect. Les conflits sont beaucoup plus forts quand il y a une position militante. Voilà.
Anne Mixtel, on vote aujourd'hui de façon plus individuelle qu'avant, beaucoup moins par appartenance collective. Qu'est-ce que ça a pu changer, ça, sur la politique dans l'intime ?
Eh bien, la politique dans l'intime, elle s'est individualisée et d'une certaine façon, ça induit aussi une dédramatisation de la politique dans les familles. Quand même, ce qui s'est généralisé, c'est cette démocratisation par l'intime, on va dire, de la place de la politique dans la famille, car la politique avant était davantage enchâssée dans des systèmes idéologiques, dans des loyautés partisanes, dans des appartenances politiques structurellement fortes et bien posées. Aujourd'hui, on le voit bien, la politique s'est donc individualisée et on va à la politique à partir de choix plus personnels, plus intimes. Et donc, ça induit, et donc aussi plus mobile, moins solide. Hein, les choix politiques sont moins solides qu'ils ne l'étaient dans le passé. Et donc, du coup, ça induit un arbitrage au sein du cercle des proches, de la famille, peut-être plus affectif aussi, mais avec plus de respect malgré tout de la différence. Et donc du coup, malgré tout, même s'il y a encore des disputes, s'il y a des conflits, ils peuvent apparaître moins dramatiques qu'ils l'ont été dans des périodes historiques passées.
Et ça veut dire que la solution, c'est d'apprendre à prendre la distance, à dissocier la personne de son idéologie politique, que ce soit donc son conjoint ou son père ou son fils.
Oui, ce que l'on observe au niveau de l'institution familiale et donc des nouvelles façons de vivre ensemble dans le couple, dans la famille, entre parents et enfants, on voit bien qu'il y a un respect de la personne qui s'est imposé, que la hiérarchie des rapports d'autorité a profondément changé. C'est la même chose pour la politique. On s'écoute davantage les uns les autres et malgré tout, même quand il y a des divergences, le respect de l'opinion de l'autre, du pluralisme démocratique, je pense, est plus établi dans les familles d'aujourd'hui qu'il ne l'était hier.
Et qu'est-ce que ces désaccords, Yvonne Poncet-Bonisol, peuvent apporter au couple et puis à la famille ? On imagine qu'il y a aussi du positif à en retirer, que dans ces couples-là, on ne s'ennuie pas, dans ces familles-là, on ne s'ennuie pas. Voilà, quel positif on en retire de tout ça ?
Alors, l'acceptation de la différence, c'est vraiment un cheminement vers une maturité affective, vers une maturité de l'altruisme et vers beaucoup d'humilité. Donc c'est très très important d'accepter la différence. C'est un acte altruiste pur. Et je crois que ça, s'il y a effectivement des divergences, eh bien il peut y avoir aussi une consolidation. Et c'est peut-être l'occasion ou jamais de s'opposer, mais aussi de se réconcilier et d'accepter que l'autre, finalement, est une opinion ou des croyances ou des valeurs différentes. Et je crois que ce qui est important, mais Mme Mixtel l'a très très bien précisé, ce qui est important, c'est bien sûr la hiérarchisation des valeurs, mais surtout de couper une forme de fusion. Le discours politique peut être une arme
de couper un rapport fusionnel tant des parents vis-à-vis de l'enfant qu'un couple trop fusionnel. Ça met du piment, donc ça met de la différence et ça met une bonne distance et chacun peut retrouver sa véritable place. Et c'est vrai aussi pour la fratrie.
Et dans l'un de vos livres, Anne Muxel, un de vos interlocuteurs de gauche vous dit « Je préfère une fille de droite qui aime les bons livres qu'une femme de gauche qui fait du jogging tous les matins ». Bon, c'est un peu dur pour les personnes qui font du jogging, mais qu'est-ce que ça nous apprend, ce témoignage-là ?
Bah, en tout cas, ça nous apprend qu'en tout cas pour cette personne-là, ce n'est pas la politique, les opinions politiques qui sont premières dans la hiérarchie en fait, des liens affinitaires qui peuvent l'unir à quelqu'un d'autre. Et que, donc une personne pour lui n'est pas d'abord quelqu'un qui est porté par ses convictions. Donc oui, ça dit quelque chose de la différence, de l'intérêt que l'on peut porter à l'autre pour ce qu'il est à partir de ses choix propres, de ses goûts propres, et que lui, ce qu'il préfère, c'est de toute évidence la culture. Avant la politique et donc avant le sport, si j'ai bien compris.
Et ces couples qui résistent, on peut l'imaginer, sont des couples endurcis, hein, ces couples qui résistent malgré les divergences politiques.
Oui, endurcis justement à ce travail de construction de l'altérité. L'altérité, elle est toujours entretenue par des limites qui font que on peut soit basculer dans l'intérêt que l'on porte à l'autre pour la différence, soit basculer effectivement dans des conflits dans lesquels on va s'engluer et dans lesquels on va finir par détester l'autre. Donc il vaut mieux espérer que cette altérité démocratique, c'est-à-dire respectueuse, triomphe.
Merci à vous, Anne Muxel, sociologue. Je rappelle le titre de votre livre, Toi, moi et la politique, aux éditions du Seuil. Merci aussi Yvonne Poncet-Bonissol, psychologue. Vous avez écrit Secrets de famille et non-dit, publié chez D'Angle. Merci à toute l'équipe de l'émission 7 milliards de voisins. Et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. Demain, nous parlerons de ces professeurs qui nous ont inspirés. À demain, les voisins. Écho d'ici, écho